coq chanterait jour pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Protéger la nature, c'est protéger l'économie. Et protéger l'économie, c'est respecter des populations et leur permettre de continuer à vivre là où leurs ancêtres ont vécu. On était en 1900 1 milliard d'habitants sur la Terre. On prévoit d'être d'ici 30 ans 10 milliards d'habitants sur la Terre. Il va falloir nourrir 10 milliards de personnes sur la Terre. Il est temps à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut avoir une empreinte sur les territoires durables, comment est-ce qu'on peut produire durablement et pêcher durablement. Eh bien, on va continuer à appauvrir les plus pauvres et à être dans une économie de marché qui n'a plus de sens.
Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité sociale des entreprises, ou RSE. Il s'agit d'un ensemble de pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable, social, environnemental et économique. Et pour cela, nous allons au dernier salon Pro Durable qui a eu lieu à Paris. L'équation est simple. Notre mode d'exploitation des ressources de la Terre et le rythme de cette exploitation ne permettent pas aux ressources naturelles de se renouveler convenablement. Déjà, les scientifiques ont calculé un jour symbolique, 10 jours du dépassement ou jour du dépassement de la Terre. C'est une date de l'année à partir de laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en une année. En 2020, par exemple, ce jour du dépassement de la Terre, c'était le 22 août. Donc, depuis cette date, nous vivons à crédit. Déjà, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Or, les projections démographiques prévoient une augmentation de la population mondiale, c'est-à-dire une augmentation des besoins. L'une des solutions imaginées par les chercheurs, c'est justement cette responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises doivent apprendre à travailler sans porter atteinte à l'environnement et sans préjudice pour les populations locales. Au Salon Pro Durable, nous sommes sur le stand du WWF où nous sommes reçus par Eric Evenou qui travaille au département des partenariats avec les entreprises au WWF France.
Alors le WWF, bien sûr, a des actions de conservation et la durabilité et l'économie durable nous concerne. Quand on parle de responsabilité sociétale et environnementale, le sociétal doit être présent dans chacune des actions terrain. On a beaucoup d'actions terrain. Lorsqu'on veut défendre la forêt, on fait toujours en sorte d'être en contact direct avec les communautés locales pour qu'on ne défende pas la forêt contre les communautés locales, mais avec les communautés locales. Donc, lorsqu'on a des actions dans le bassin du Congo, en Indonésie et dans tous les coins de la planète sur la protection de la forêt, c'est toujours avec une dimension sociétale pour que les populations qui vivent de la forêt puissent mieux vivre de la forêt, parce qu'en préservant leur outil et leur environnement, elles vont pouvoir aussi elles-mêmes préserver une qualité de vie et un modèle économique qui les font vivre. Donc on doit toujours faire en sorte que si on améliore l'état de la planète, on améliore aussi la vie des gens qui vont vivre de leur culture.
Bon, voilà, vous arrivez par exemple j'ai vu qu'il y a la mangrove à Madagascar, vous arrivez, vous voulez préserver ça, mais ça sous-entend que vous discutez avec les populations locales pour voir comment traditionnellement elles gèrent ça. comme elles en vivent.
Oui, l'exemple de la mangrove, par exemple, ça ramène à la pêche et la culture et la pêche des crevettes. Donc, il y a une économie liée à la mangrove. Protéger la mangrove, c'est pas seulement vouloir protéger une espèce végétale. C'est aussi vouloir protéger une activité économique et une population qui, si la mangrove n'existait plus, eh bien ces gens-là s'appauvriraient. Et donc, c'est grâce aux mangroves qu'on peut avoir une culture, et une culture, par exemple, de pêche, dédiée et spécifique à la mangrove, comme la crevette. Et donc, on a une population locale qui va pouvoir mieux vivre, rester sur place, ne pas être obligé de partir de son environnement pour aller dans les grandes villes. Si la mangrove n'existait plus, c'est pas seulement la mangrove qui disparaît, c'est tout un écosystème lié à la mangrove qui inclut l'homme. Protéger la nature, c'est d'abord protéger l'homme. Vous avez des populations qui vont pouvoir vivre de la pêche grâce à la mangrove, grâce à une mer plus propre, grâce à des massifs, des récifs coralliens préservés qui protègent des diversités de pêche et de poissons. Donc protéger la nature, c'est protéger l'économie. Et protéger l'économie, c'est respecter des populations et leur permettre de continuer à vivre là où leurs ancêtres ont vécu. On était en 1900 1 milliard d'habitants sur la Terre. On prévoit d'être d'ici 30 ans 10 milliards d'habitants sur la Terre. Il va falloir nourrir 10 milliards de personnes sur la Terre. Et si on commence pas, il est temps à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut avoir une empreinte sur les territoires durables, comment est-ce qu'on peut produire durablement et pêcher durablement. Eh bien, on va continuer à appauvrir les plus pauvres et à être dans une économie de marché qui n'a plus de sens.
Les scientifiques eux-mêmes ne parviennent pas à s'entendre sur le contenu de l'économie durable ou l'exploitation durable. On va tenter de jumeler la chose. Nous allons bientôt être 10 milliards d'individus sur la Terre. Nous consommons plus que ce que la Terre peut nous donner. Il se trouve que nous n'avons pas une autre planète. Donc, pour les besoins en bois par exemple, je dois apprendre à couper les arbres, mais de manière à ce que la forêt puisse se reproduire, de façon à ce qu'elle puisse de nouveau me donner de la matière première.
Oui, on parle de gestion forestière. Là, vous prenez un exemple de la forêt. C'est vraiment un des meilleurs exemples. Si on a une vision à court terme de dire « Ah bah je coupe un arbre et je vais peut-être bien faire les choses si j'en replante un ». L'idée de replanter un arbre, c'est une bonne idée en soi. Mais si on replante pas la bonne essence d'arbre, si on n'est pas sur une essence d'arbre qui est originaire de cette région, si on veut replanter un sapin au milieu d'une forêt de hêtres ou de chênes, si on n'a pas perçu aussi qu'avec le réchauffement climatique, il y a certaines essences qui vont disparaître, malheureusement, et qu'il faut plutôt commencer à planter des essences d'arbres qui, elles, vont être résistantes des précipitations qui seront moindres d'un réchauffement climatique. Donc, toute la gestion de la forêt, c'est une gestion écosystémique, c'est prendre en compte la dimension de la forêt et puis de la biodiversité qui l'habite. On l'a vu récemment avec l'épidémie Covid-19, c'est éviter de réduire l'espace dans lequel vivent les espèces animales pour qu'on évite la transmission de virus des animaux aux hommes. Quand on préserve la forêt, on préserve l'homme.
Attendez, je veux voir, parce que là encore vous avez ajouté autre chose. C'est-à-dire que moi je vois une forêt, mais il n'y a pas que les arbres. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent dedans. Les hommes dépendent de cette forêt. Cette forêt rend beaucoup de services, plus que ce que moi je vois.
Ah oui, absolument. On a identifié tous les services que peut rendre une forêt. Elle est un régulateur de la vie sur Terre. L'eau qui tombe du ciel, la pluie est filtrée par les forêts. Si les forêts n'existaient pas, on enlève un système de filtration naturelle vital pour remplir les nappes phréatiques. Si les forêts n'existaient pas, on n'aurait pas ces puits de fraîcheur dans le monde. Donc la forêt régule aussi autant qu'elle le peut, et tant qu'on ne la coupe pas, elle régule le climat, absolument. La forêt protège 70% des espèces sur Terre et l'homme n'est qu'une des espèces. La forêt est absolument indispensable à la vie sur Terre. Elle est aussi dans nos cultures. Ne pas oublier cette dimension culturelle de la forêt. Elle va bien au-delà de l'aspect économique qu'on peut en tirer en coupant seulement du bois.
C'est ma faute, je vous ai amené sur le bois et la forêt. On va revenir à cette RSE. J'ai une entreprise, j'ai besoin de vos services, j'ai besoin de votre accompagnement. Comment je fais ?
Alors, si vous êtes une entreprise d'une certaine taille et que vous n'avez pas l'expertise en interne sur un approvisionnement durable, eh bien, vous pouvez venir nous voir et on peut essayer de mettre en place une coopération technique pour vous aider à devenir plus vertueux sur vos approvisionnements. Nous avons plusieurs secteurs d'activité sur lesquels nous avons une expertise et des équipes en place. Ce sont les secteurs de la forêt durable, le secteur de la protection des océans, la protection de l'eau douce, tout ce qui touche aux rivières, l'alimentation durable, les énergies nouvelles et l'efficacité énergétique, évidemment la protection de la vie sauvage. Hein, on est connu pour notre logo du panda, donc on est surtout connu pour ça, mais on a aussi toutes ces autres activités. Donc on a des expertises que l'on peut mettre au service d'entreprises qui ont la vraie volonté d'améliorer leurs appros et qui n'ont pas une volonté de greenwashing, d'utiliser l'image que nous avons.
Greenwashing, ça veut dire que je peux venir raconter des histoires et comme quoi je suis devenu vertueux et tout ça. On me donne une certification alors que ce n'est pas le cas.
Absolument, le greenwashing c'est terrible, mais c'est toujours d'actualité. Vous avez bien sûr toujours des entreprises, des gens qui espèrent pouvoir tirer un profit d'une image, d'une communication avec une ONG célèbre, avec un logo célèbre. Évidemment, on est très vigilants, donc on va les sélectionner, évidemment, en fonction de leur véritable volonté de s'améliorer et pas, évidemment, sur des aspects de communication.
D'accord, vous m'avez accompagné. Bon, jusqu'à un moment où vous jugez que ma situation est satisfaisante, j'ai le droit de mettre votre logo sur mon produit. Qu'est-ce que ça me rapporte, ce logo ?
Oula, oula, on ne va pas aussi vite que ça.
Déjà... Ah bon, il y a des étapes que j'ai sautées.
Ah oui, déjà, avant de mettre un logo sur un produit, là, vous êtes arrivé dans une idée de co-branding, et là, on parle d'un contrat de licence. Alors là, j'aime autant vous dire qu'avant d'être capable, en capacité de mettre un logo sur votre t-shirt ou sur vos paires de baskets ou sur votre chaise en bois, il va falloir d'abord qu'on ait mis en place ensemble une vraie politique RSE, qu'on l'ait confirmée. On va d'abord apprendre à marcher ensemble avant de vouloir...
À confirmer, ça veut dire qu'il faut que je fasse mes preuves sur le long terme.
Absolument. Quand on met en place un contrat de coopération, c'est pour plusieurs années. On va regarder comment vous avez progressé dans le temps, si vous avez atteint les objectifs qu'on s'est définis conjointement. C'est toujours dans la co-construction d'un projet qu'on avance, mais il n'est pas question de mettre en place un contrat de licence, de co-branding sur certains de vos produits, tant qu'on n'aura pas la certitude que votre bois n'est pas 100% FSC ou que votre pêche n'est pas 100% MSC ou ASC. On a une approche toujours très scientifique sur l'atteinte des objectifs, ça doit toujours être mesurable. Donc on a des objectifs à atteindre ensemble. Ce sont des partenariats sur 4, 5 ans, des fois beaucoup plus. Et donc, il n'est pas question de communiquer tout de suite. Ces gens-là ne nous demandent pas une communication. D'ailleurs, nous leur demandons parfois de ne pas communiquer sur nous. Il y a une vraie démarche volontaire et désintéressée.
C'est-à-dire qu'on travaille d'abord.
On travaille d'abord. Et quand on a atteint certains objectifs, éventuellement, on peut imaginer à ce moment-là de pouvoir mettre en place une communication sur certains produits lorsqu'on est absolument garanti que les produits sont exemplaires et qu'ils servent la planète. C'est-à-dire que le message qu'on va passer ensuite à des consommateurs, c'est en achetant ce produit-là, vous faites un progrès sur la préservation de l'environnement. En achetant une litière pour chat éco-responsable, parce que fabriquée à partir de copeaux de bois 100% FSC, vous n'allez pas utiliser du sable qui vient de l'autre bout de la planète et qui est arrivé en avion.
FSE, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire Forest Stewardship Council. C'est la certification que nous défendons. C'est une entreprise qui a ses bureaux dans plusieurs pays et qui défend donc un modèle de forêt vertueuse qui protège la biodiversité. Nous sommes associés à ce logo. Nous les aidons à atteindre le plus d'impact possible dans tous les pays où le FSC est présent.
C'est-à-dire que l'idée, voilà, puisque vous avez parlé d'un célèbre fabricant de pneus, l'idée c'est d'abord que mon caoutchouc ne porte pas tort aux populations locales, ne porte pas tort à l'environnement, et quand je l'ai amené, que je le traite de façon vertueuse dans mes usines, sur le long terme, et vous voulez avoir la garantie qu'une fois que j'aurai le logo, je ne vais pas recommencer à faire n'importe quoi.
Bah déjà, il n'y a pas de co-branding avec Michelin. On ne met pas un logo sur des pneus. Mais pour revenir...
Ah ben, tu vois, c'est un pneu. Mais ça va vite, quoi.
Et en plus, ça ne serait pas longtemps sur le pneu. L'idée, par exemple, lorsqu'il y a l'importation de caoutchouc naturel qui viennent de plantations d'EVA en Indonésie, eh bien, ce que nous avons fait, ce que nous avons mis en place, c'est de protéger la forêt primaire indonésienne pour éviter donc qu'elle soit de manière illégale coupée pour planter des forêts d'EVA et donc amener un caoutchouc naturel qui ne serait pas vertueux, qui ne serait pas durable. Donc nous mettons en place des équipes en Indonésie pour protéger une plantation d'EVA plus durable, pour aussi former des gens à mieux saigner l'EVA pour avoir plus de rentabilité sur la manière dont on va obtenir du caoutchouc naturel, protéger l'habitat des félins et du tigre, notamment en Indonésie, qui voyait son habitat réduit par une plantation sauvage d'EVA, plantation anarchique, qui mettait en jeu même la survie du tigre en Indonésie. Donc toute la biodiversité dépendait d'une culture intensive en Indonésie qui servait la production de pneumatiques. En ayant aidé Michelin à une production et à un sourcing plus respectueux, nous les avons obligés à prendre en conscience des points de la biodiversité qui n'étaient pas suffisamment intégrés probablement chez cet industriel.
Mais on sent que vous êtes rigoureux, très très, très rigoureux.
Ah, c'est très très rigoureux. Hein. On a beaucoup des entreprises avec lesquelles on est en partenariat sur des bases scientifiques mesurables. Donc on est sur un cahier des charges très strict. Les entreprises doivent mettre en place une activité durable basée sur des années de travail et rien ne se fait en claquant des doigts. Donc c'est bien sûr sur des mesurables qu'on juge si les objectifs ont été atteints.
Je vous remercie.
Mais avec grand plaisir et merci à vous.
Merci madame. Allez, au revoir.
Merci à vous.
Okay. Nous étions sur le stand du WWF lors du dernier salon Pro Durable qui s'est tenu à Paris. Les responsables de cette célèbre ONG internationale de protection de la nature nous expliquaient la responsabilité sociale des entreprises ou RSE. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire. Excusez-moi, pour sortir.
C'est de notre côté.
Ah oui, d'accord. Merci. Okay.